Bienvenue à la French Connection, épisode 125. Cette semaine, je suis avec Steve.
Bonjour.
Damien.
Salut tout le monde.
Et nous avons un revenant, Richie.
Bonjour, bonjour, près de l'Halloween, c'est pour ça que je reviens.
Allez, oui. Commençons avec les Shameless Plug. Dans deux semaines, Hackfest. Fait que si vous n'êtes pas encore inscrit, dépêchez-vous parce qu'ils ont ouvert des billets récemment et il en reste vraiment pas beaucoup. Fait que grouillez-vous, faut y aller. Steve, Damien et moi, ils présenteront quelque chose. Et il y aura le podcast aussi qui sera enregistré live le samedi soir si vous voulez joindre avec nous autres pour rire de nos folies que vous ne voyez pas quand on enregistre normalement.
Live.
C'est là où vous allez découvrir un podcast enregistré pendant 3 heures.
C'est ça. Et ça là, c'est ça qui fait que le montage est très long et que des fois que l'épisode ne finisse jamais par sortir. Bref. Et le 20 avril, le Sécure revient. Québec Mec présente le Sécure. Commençons avec les nouvelles. Phishing, intéressant, obligeant les entreprises à payer une facture.
Oui, ça se passe en Europe. Depuis quelques semaines, est envoyé un courriel aux couleurs de PayPal. Ça, c'est un grand classique. Hein. On sent le phishing venir, on vous annonce qu'on vous doit de l'argent. Et puis, au fur et à mesure, ce message, en fait, explique que c'est vous, entreprise, qui devait de l'argent à PayPal. Alors, ils annoncent entre 40 et 50 euros, donc 40 et 50 dollars canadiens. Et là, on vous explique qu'il va falloir payer parce que si vous ne payez pas, eh bien, vous vous retrouvez, en fait, avec un huissier, avec un homme de justice qui viendra à votre porte pour réclamer beaucoup plus. Là, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette attaque qui pourtant est assez commune, eh bien, c'est que quand vous cliquez sur le lien qui est proposé dans le courriel, eh bien, vous vous retrouvez effectivement sur le vrai site PayPal. En fait, quand vous cliquez, vous arrivez carrément sur une facture express que les malveillants ont mis en place. Et donc, du coup, les gens se disent « mais c'est pas un phishing, c'est le vrai site PayPal et en plus, on me demande pas tout de suite mes informations ». Donc, du coup, ça permet de remonter aux malveillants. Mais ces malveillants, en fait, à chaque clic, génèrent une nouvelle facture. Et ça sera intéressant de savoir si énormément de gens se font avoir. Moi, j'ai été alerté par deux entreprises hein, qui m'ont clairement dit « mais attendez, ils nous ont même pas demandé nos données, hein, login ou mot de passe, en tout cas nos outils de connexion ». Nous, on n'a pas de PayPal, donc du coup, on nous a demandé de mettre notre carte bancaire. Et on est sur le vrai site PayPal. Donc, ça prouve que, encore une fois, les malveillants osent tout et que là, bah, ils ne sont même pas foulés. Hein. Ils ont carrément pris ce que propose PayPal pour faire un paiement direct. Et à première vue, ça a l'air de fonctionner.
Ouais, mais il n'est pas rare de voir des systèmes, en tout cas des malveillants réutiliser des systèmes comme SharePoint Online ou ce genre de choses-là. Ce qui donne une petite saveur professionnelle. Donc, toute l'info nuagique n'est pas utile que pour les entreprises. L'info nuagique aussi sert énormément aux malveillants. Et c'est tout à fait fascinant. Puis justement, qu'ils réutilisent PayPal pour aller récolter de l'argent tout bonnement. Comme ça, c'est fantastique. Passons à la nouvelle suivante. Important groupe média français attaqué par un rançon logiciel.
Alors, les ransomware, hein, les rançongiciels, on en parle beaucoup. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on en parle à des gens et à des entreprises, voire à des particuliers, oh, ils en ont entendu parler, à première vue, ça arrive de temps en temps, dans 2-3 entreprises, par-ci, par-là. Sauf que plus ça va et plus on se rend compte qu'il y en a partout. Et dernière attaque en date, alors que une semaine avant, c'était des hôpitaux ici en France et en Europe qui avaient été touchés. En France, eh bien, c'est un grand groupe médiatique qui s'appelle M6. Alors rapidement, hein, le groupe M6, c'est 14 chaînes de télévision, c'est 3 radios différentes, dont l'une des plus importantes en Europe qui s'appelle RTL. Eh bien, ils se sont retrouvés, encore une fois, attaqué par un rançongiciel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvenez-vous, on en avait parlé dans le podcast au mois d'avril de l'année dernière. Je vous avais expliqué comment des malveillants avaient mis en place des phishing, en tout cas pour viser d'autres groupes médiatiques français. À première vue, ils ont réussi une attaque parce qu'il a été avéré que ce rançongiciel qui avait donc et qui continue à bloquer d'ailleurs au moment où on se parle, hein, qui continue à bloquer les messageries et la téléphonie de certains médias de ce grand groupe. Eh bien, j'avais expliqué qu'au mois d'avril, des malveillants avaient tenté d'infiltrer. Eh bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu infiltration, les gars ont attendu, quand je dis les gars, les pirates ont attendu à un moment très précis et ils ont envoyé leur attaque et donc du coup, demande de rançon, ça c'est un grand classique. Sauf que ce qui devient intéressant, c'est que ce n'est plus des petites PME, PMI qui sont touchées. Hein. Là, on se retrouve encore une fois avec de grands, grands groupes. Et je pense que vous allez en parler. D'ailleurs, Steve, je crois aussi, il va en parler parce que ça vise des grandes entreprises aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a un moment, il faudrait que tous ces gens commencent à ouvrir les yeux, hein, parce que, comme on le dit tout le temps, c'est moi, c'est ma phrase fétiche depuis des années, c'est pas ce que j'apprends aujourd'hui qui m'inquiète, c'est ce qui va arriver dans 3 ans. Si vous continuez à fermer les yeux, si vous pensez continuer à vous dire que ça n'arrive qu'aux autres, eh bien, un samedi, vous allez vous réveiller avec d'énormes cernes sous les yeux, mais il sera trop tard.
Steve, tu voulais intervenir?
Ben, un peu comme Damien apportait en avant-plan, je veux dire, oui, c'est une situation qui est mondiale et il n'y a pas de secteur en particulier. Il y en a qui ont dit non, c'est juste les services de santé qui ont ça. Il y en a d'autres qui ont dit non, c'est juste les services essentiels de production de pétrole dans d'autres pays. Ça touche tout le monde. Et un des derniers, justement, producteur de pétrole en Finlande, lui-ci s'est fait avoir. Ils ont ouvertement dit, voici ce qui se passe. Ils ont fait des mises à jour constantes. Chapeau encore à cette entreprise-là qui est Neste. Pareil comme Norsk, quand c'est arrivé, la luminerie, encore une fois, livre ouvert, voici, ça nous est arrivé, on travaille sur le problème, mise à jour quotidienne, c'est ça qu'il faut. Il faut informer les gens, il ne faut pas laisser dans le noir pour qu'on puisse, les gens puissent s'organiser en conséquence. Mais dans ce cas ici, lorsque c'est un média, bien, heureusement, la production télé, la diffusion n'a pas été affectée, mais évidemment, c'est toujours à l'intérieur qui est le problème, fait que... Oui, les gens, il faut qu'ils fassent redouble d'efforts pour leur cyberhygiène parce que c'est certain que ça va leur rentrer dedans. Puis encore, j'en reparlais cette semaine lors d'une conférence, les gens se questionnent beaucoup. Mais j'ai dit, ça revient à la base. Nettoyez vos systèmes, gardez ça. Encore une fois, gardez, portez attention sur ce qui rentre par courrier électronique. C'est toujours là qui est le point d'entrée. Là.
Et le problème, justement...
Ah, parce qu'il est très
Excuse-moi, Nicolas. Justement, pour ce problème-là, en France, quand on a commencé à en entendre parler, parce que l'entreprise a communiqué en expliquant que ses équipes cybersécurité avaient agi très rapidement, que la chaîne et la chaîne de télévision et le groupe n'avaient pas été impactés, que ça continue à diffuser. Moi, pour avoir et pour travailler pour certains de ces personnes, j'ai pas mal de collègues qui m'ont prévenu en me disant que pour eux, plusieurs jours après l'attaque, c'était toujours... un gros bordel. Ils n'avaient toujours pas accès aux mails, ils n'avaient toujours pas accès à la téléphonie. Je vous cache pas que moi, quand j'ai entendu parler de cette attaque, j'ai commencé à regarder un petit peu dans les méandres des internets malveillants. En une heure, j'ai extrait plus de 3700 mails de ce grand groupe appartenant à des employés qui avaient été utilisés dans d'autres sites internet avec, bien sûr, des mots de passe qui allaient avec. Ça veut dire qu'en plus, en interne, des gens se sont inscrits n'importe comment. Et rien que la collecte de ces 3700 mails différents, eh bien, ça peut permettre justement d'envoyer un courriel et de piéger au moins l'un de ces 3700 en leur envoyant un phishing, en leur envoyant un hameçonnage, en leur envoyant eh bien, ce message qui va les piéger. Je ne parle même pas des mots de passe, hein, parce que dans ce que j'ai pu trouver, tous les mots de passe, qu'est-ce qui me dit qu'ils n'étaient pas le même partout utilisés par ces gens-là. Donc, ça peut être aussi une porte d'entrée. Bref, il y a une éducation en interne aussi qui est loin d'être négligeable. Et on a un gros problème, qu'on le veuille ou non, c'est tous ces gens qui se disent « Moi, j'ai pas besoin de mise à jour, l'informatique et les pirates, j'en ai pas peur parce que je ne risque rien. »
Ouais, ben, tout à fait. Pour ce que je peux voir, ce que tu fais référence, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le Unholy Trinity, c'est-à-dire les 3 grands virus qui circulent, Emotet, Trickbot, Ryuk, qui ont été largement annoncés comme étant très, très dangereux et étant dormants, parce qu'il y a quand même des hôpitaux au Canada qui ont été affectés par ces virus-là. Et justement, ils réutilisent des courriels, des personnes. Donc, ces courriels-là sont extraits des systèmes puis sont retournés ensuite pour faire semblant. Fait que les gens se font piéger sur ce genre de choses-là. Des pièces jointes malicieuses qui sont jointes, et ainsi de suite. Je dois dire que les grands groupes se font de plus en plus toucher. Puis, Steve va poursuivre justement avec une nouvelle de ce sens-là. Mais essentiellement, c'est très difficile, mais ça devient toujours les jeunes de base parce que ces virus-là, jusqu'à preuve du contraire, utilisent Eternal Blue pour se propager en interne. Et Eternal Blue date déjà de quand même plusieurs mois. Là. Donc, si vos systèmes sont corrigés, normalement, vous seriez censé être relativement immunisé contre ça. Ils sont quand même plus subtils que ça dans l'ensemble, pour ce que je peux constater. Mais par ailleurs, les attaques demeurent les attaques de base. Tromper l'utilisateur et vulnérabilité qui date déjà d'un bon bout de temps. Là. Steve, tu as justement 2 nouvelles.
Eternal Blue, pour info, ça date d'avril 2017. Hein.
et que ça a été justement corrigé, puis après ça, on a eu WannaCry qui en a profité, puis après ça, on a eu NotPetya qui en a profité par-dessus. Fait que c'est pas qu'il n'y a pas eu de situation préalable pour que là, les gens arrivent et disent « Ah, c'est tout nouveau! » Non, il y a eu des situations réelles bien avant, et encore là, c'est de la négligence. Tant qu'à moi, je ne sais pas que vous en pensez, les gars. Richer, qu'est-ce que t'en dis?
Oui, dans le fond, comme c'est être capable de pouvoir pour être capable de faire l'inventaire de tout ça et d'être sûr de pouvoir faire le ménage, puis de faire les mises à jour. C'est facile à dire. Tu sais, je veux dire qu'il faut faire les mises à jour, il faut s'ajuster avec tout ça. Mais le problème, c'est que c'est un processus qui peut être très lent si on a des systèmes qui sont en place. Ça peut être très gros, très lent. Puis donc, je peux comprendre d'une certaine façon. C'est sûr que c'est pas une raison de ne pas rien faire, mais je comprends. Tu sais, quelque part, je comprends.
Et Steve, tu vas continuer, tu as déjà deux nouvelles toi, spécifiques au rançon logiciel où que tu vas justement pinner base, puis juste...
Ben, pinner base, c'est quand même pas une petite binerie qui, juste pour souligner le fait que, avec les exemples que Damien Richer présentait, une grande entreprise peut devenir victime justement de rançon logiciel, et c'est arrivé à multiples reprises, n'importe où encore une fois sur la planète, tout comme récemment au Québec, je veux dire, le CIUS, pas le CIUS, mais l'hôpital à Montréal, j'oublie l'acronyme, messieurs, pour vous m'assister.
C'est pas le
CUSUM? CUSUM, merci, qui le c'est tombé, puis personne n'a donné d'explication. Évidemment, ils veulent pas mal paraître, puis quatre jours après, il est remonté. Donc ça, pour moi, c'est signe et symptôme que c'est un rançon logiciel, puis ils ont retravaillé le site, ils ont repris des backups, puis ils ont remis en fonction. Même chose avec Bonjour Santé, qui Bonjour Santé aussi se bat vraiment, c'est comme un diable dans l'eau bénite, comme on dit, parce que le site est vraiment sous attaque soutenue, ayant parlé avec des gens de l'organisation. Et ce qui me surprit beaucoup, par exemple, les gars, c'est que c'est un site qui est même pas parrainé par le gouvernement, l'au-delà qui m'appelle, désolé pour ça. Et après ça, ce qui est vraiment étonnant, c'est que c'est soutenu par personne. Donc, c'est une entreprise, encore là, qui a vu là 5 ans, qui a fait, il a pris l'initiative de partir le projet. Partir le projet pour le lancer en faisant un service, en donnant un service pour empêcher que les gens, tout d'un coup, aient à attendre sur le bord de la rue, parce que c'est vraiment ça le premier concept qu'ils ont lancé l'idée. N'attendant plus sur le coin de la rue, ben ils peuvent à ce moment-là prendre des rendez-vous à l'avance et à ce moment-là, de façon régularisée, aller au rendez-vous. 5 ans plus tard, on est là, le site a des problèmes et les propriétaires cognent aux portes, tentent d'aller chercher du support et de l'aide et c'est très difficile. Personne ne répond à ça. Même ils ont appelé les services policiers. Si mon souvenir est bon, c'est à Ottawa qui ont appelé, ils sont venus, ils ont documenté les adresses IP impliquées dans l'attaque, mais sans plus. Alors, ça me surprend beaucoup que, malgré les promesses que tout le monde est là pour aider tout le monde, mais que là, il y a un cas réel qu'un site semi-commercial, j'appelle ça parapublic parce qu'il sert l'intérêt public, mais qu'il est complètement privé. Ben, il n'y a personne qui l'aide justement parce que les médecins étaient tous d'accord et ils ont souscrit à ce site-là, beaucoup plus qu'à celui du gouvernemental. Et personne n'est en aide parce que là, il est dans le chenoute. Je trouve ça plate un peu. Puis en parallèle à ça, ben on a encore eu un déversement de données, mais cette fois-ci de vieilles données de la part d'un site qui est de rencontre, qui est Zoosk, Z-O-O-S-K. Superbe site, ça a l'air, je n'ai jamais été là-dessus, je ne sais pas pour vous autres, mais très large. Un site à grand déploiement mondial. Et ce site-là, donc, on a eu le contenu canadien qui est revenu cette semaine se faire déverser sur l'espace public, donc sur Pastebin. Au début, je me grattais la tête, je veux dire, c'est qui ça, tous ces sites-là? Ça va être un site à connotation médicale, mais non, c'est vraiment le site de rencontre. Et chose fantastique, les mots de passe qui sont tout en clair, la façon qu'ils sont présentés, mais quelle variété de mots de passe facile à deviner, facile à craquer. C'est épouvantable. En fait, moi, je vais m'en servir justement à des fins d'éducation dans les enseignements que je donne, parce que ça donne une idée que dans la vraie vie, les gens sont encore à l'étape d'aller mettre des mots de passe très simples. Même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est là. 1 à 6, qui est toujours le numéro 1 mondial, tout est là. Fait que c'est un peu plate qu'on retrouve ça encore aujourd'hui.
Ben, Damien, ça ressemble un peu à ce que tu vois.
Oui, clairement, ce qui est intéressant, Steve, ce que c'est expliqué Steve, c'est que Zoosk est ressorti. Alors, en fait, il ressort quasiment tous les 3-4 mois et on s'est rendu compte que certains pirates étaient clairement en train de faire maintenant le décortiquage de vieilles bases de données par pays. C'est intéressant parce que quand on fusionne un peu nos deux infos, j'ai découvert il y a maintenant une petite dizaine de jours, il y avait exactement StephenKey.com, c'est 23 millions d'utilisateurs. MyVestige, 11 millions. Todoo.com, 6 millions. MinuteBee, 3,2 millions. Et WhatWapice, 2,5 millions d'utilisateurs. Bref, en gros, hein, tu mélanges tout ça, ça se retrouve avec plusieurs dizaines de millions. Et ce qui est intéressant, donc, utilisateurs, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le moment, ce ne sont que des plateformes sociales qui ont été diffusées. Alors, moi, je regarde un petit peu qui fait ça. Hein. C'est clairement parce qu'il y a un énorme business, comme le disait Steve, là, en plus. La grande majorité des gens, non seulement ils ont des mots de passe complètement idiots, pardon du terme, hein, si ce n'est, je vais rester poli, mais c'est vraiment fou furieux. Et surtout, bah, tous ces mots de passe et tous ces comptes ayant les mêmes mails et les mêmes mots de passe, ça permet à tous ces pirates, eh bien, de créer des petits comptes, des petites boutiques dédiées à d'autres sites web. Je prends l'exemple, hein, storenvy.com, c'est 23 millions d'utilisateurs. Eh bien, peut-être que dans ces 23 millions, il y a, allez, 50% qui utilisent le même mot de passe sur d'autres boutiques. Et donc, du coup, ils vont se retrouver à être vendus dans d'autres boutiques. Enfin, ça devient complètement fou, hein, parce que ça vise quasiment tout le monde maintenant, que tout le monde continue à faire un petit peu, vous savez, les trois petits singes, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Et puis, pendant ce temps-là, eh bien, ça aspire très clairement. Je prends l'exemple de StephenKey.com, là, hein, c'est 23,5 millions, mais c'est des pseudos, des mails, des mots de passe, des adresses IP, des identités, le sexe, les dates de naissance, la ville, les pays, les profils. Et les gens ouvraient les yeux. Hein. On n'arrête pas de nous parler de la donnée bancaire, du mot de passe et du login, hein, qui a pu être volé. Mais quand vous vous faites voler ça, dites-vous qu'ils ont volé le reste et que votre identité et réputation numérique sont définitivement perdues quand les pirates ont ça dans les mains. Et ils ont tellement de petits frères, tellement de cousines, tellement de blondes à droite à gauche de par le monde qui achètent ou qui se les échangent. C'est, voilà, ouvrez les yeux. Je vais être honnête avec vous, pour moi, il est trop tard. Ouvrez les yeux quand même.
Ouais, ben c'est très, très, très dommageable, Steve.
Ben, dommageable en même temps, c'est que c'est des leçons qui sont à retenir, mais justement, il y en a, on dirait que des fois que l'histoire se répète de semaine en semaine parce que les gens ont comme oublié que c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et encore une fois, comme on a vu cet été, c'est un éveil collectif parce que là, hey, là ça nous touche de près. Malgré que c'est un phénomène mondial, puis souvent, moi, ce que je détecte, c'est qu'ils se pratiquent ailleurs. Puis après ça, ils viennent faire ça en Amérique du Nord. Des fois, c'est plus complexe, mais les services policiers sont toujours un peu plus à l'affût que certaines autres parties du monde. Donc, lorsqu'ils sont prêts, ils sont aguerris, ben, ils s'en viennent ici et ils font commettre le méfait. Mais, excusez de dire ça comme ça, mais c'est rendu que ce n'est plus une question de si, mais bien une question de quand. Et tous doivent être prêts pour ça.
Il est grandement temps qu'on responsabilise, que ce soit qu'avoir un bâton légal pour bien à l'affût des entreprises pour qu'ils commencent à mettre l'énergie suffisante ou même les éléments de réparation par rapport aux dommages qu'ils créent. Parce que je pense que le rapport de force entre le dommage qu'il crée à la population versus ce qu'il paye est pas équivalent du tout. Fait que ça peut créer un problème. Oui.
Je sais pas pour vous autres, mais c'est bien beau. Il y aurait, tu sais, comme en Europe, on le voit avec le RGPD, il y a des amendes faramineuses et écœurantes. Parfait. On applique ça ici, mais les amendes, une fois qu'elles sont payées, on les envoie où? On se fait un fonds pour aider, indemniser les victimes? Ou bien à ce moment-là, on fait en sorte qu'on peut aider l'industrie de la sécurité, je ne sais pas. Mais il reste toujours bien qu'il va falloir qu'il... Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit un copier-coller de ce qui est RGPD. On amène ça ici au Canada, on adopte les lois en conséquence, puis go! Là, après ça, on peut légiférer.
Alors, je vais être très honnête avec vous. Pour avoir été l'un des petites ficelles ayant permis à la CNIL de mettre des amendes à des entreprises alors que je n'étais même pas au courant, hein. Mais toujours est-il que les entreprises ont eu des amendes. On ne sait pas trop ce que devient l'argent, mais surtout... les entreprises, elles s'en moquent à un point, mais c'est faramineux. Dans leur tête, et je vais vous donner deux exemples que j'ai vécu encore aujourd'hui, au moment où on enregistre, hein, donc aujourd'hui on est le 19 octobre, les entreprises, tant qu'elles ne sont pas prises la main dans le pot de miel, la main dans le sirop d'érable, eh bien, elles s'en foutent. Et le plus terrible, c'est que moi j'ai de plus en plus d'entreprises qui me contactent en me demandant de ne pas parler d'alerte, de ne pas parler de fuite de données. J'en ai même une qui a été plus que menaçante. Alors, je leur ai dit, venez, il n'y a aucun problème. Venez avec votre grand sourire. Moi aussi, j'en ai un de sourire. Mais toujours est-il que, elles ne veulent plus qu'on en parle. Elles ne veulent plus que leur image soit cornée. Alors par contre, c'est bizarre, mais elles ont oublié leurs clients, elles ont oublié leurs patients, elles ont oublié tous les gens dont leurs données ont fuité, ont été perdues. Alors, c'est simple, hein, j'en ai une cet après-midi qui m'a contacté en me disant « Ben voilà, vous aviez parlé d'une fuite de données nous concernant dans le black market, merci. Hein. Mais par contre, si vous pouviez enlever le lien parce que c'est gênant pour notre référencement. » Voilà, voilà leur état d'esprit.
Alors, elle, Paul, finalement...
Juste seconde, ici aussi au Canada, pour pas dire au Québec, Damien, c'est exactement ce qui se passe. Je peux pas nommer les compagnies ou la compagnie, mais il se passe la même chose.
Ça, c'est une demeure que l'exemple de Sarbanes-Oxley est probablement le meilleur pour sensibiliser les entreprises. Du moment qu'on est capable d'envoyer les hauts dirigeants en prison, ça a comme changé le modèle de, et l'appétit au risque de la haute gestion à framer les états financiers pour tricher un peu les évaluations qui sont faites avec ça. Là. Donc, ça serait peut-être à voir qu'est-ce qui est à faire avec ça. Enchaînons avec justement une nouvelle de Damien qui est relative aux fuites d'informations et comme il galère à contacter, parce que c'est dans l'élan.
Alors, vivement que je sois... dans vos petits bras potelés, me réchauffer face à moins 40 degrés. Vous avez vu, j'ai fait de la rime, j'ai fait un poème. Non, plus sérieusement, j'ai contacté plusieurs services de police, j'ai contacté sur LinkedIn, la police québécoise, la police canadienne, pour essayer de trouver un contact direct parce que j'ai des fuites, j'ai des failles et j'ai des problèmes visant des entreprises locales. Je suis tombé sur un policier super sympathique, donc j'ai expliqué mon cas. Donc d'abord, il m'a demandé que je me présente, donc je lui ai fait une belle missive pour lui expliquer qui j'étais et pourquoi j'avais une démarche de cyber-citoyen, parce qu'on est dans... tout ça est connu, mais j'ai accepté de reparticiper à sa demande et donc j'ai expliqué qui j'étais, pourquoi je faisais ça. Donc une fois que ça a envoyé ma carte de visite, comme on dirait, je lui ai envoyé donc plusieurs failles et il m'a dit « Ah oui, mais... je comprends qu'il vous ait pas répondu. D'abord, il faut leur écrire en anglais. Alors, vous inquiétez pas, j'ai écrit aussi en anglais. Et puis ensuite, il me dit, ah oui, mais c'est pas la même zone, c'est pas la même région. Si vous écrivez à Toronto, eh bien, c'est pas la même police, le même service. Là, je vous cache pas que j'ai commencé à avoir une petite larme qui a glissé tout le long de ma joue. Et je me suis dit, ah bah écoutez, je vais continuer à être cyber-citoyen, mais à ce rythme-là, ça va être très compliqué. Alors, je vais être très clair avec vous, parmi les failles, il y a des injections SQL, j'ai des preuves de sites de mairie ou encore d'offices de tourisme de grandes villes qui ont été infiltrés, dont les données ont été volées, et j'ai aussi deux cliniques qui n'ont toujours pas corrigé la faille VPN Fortinet et qui, je l'espère pas, vont pleurer de tous leurs yeux parce qu'un jour, ils vont être obligés d'alerter les autorités et leurs patients en disant « Oh, on a un ransomware dans notre ordinateur, on ne sait pas comment il est rentré. »
Mais Damien, à qui t'as parlé par curiosité? Est-ce que c'est au Centre antifraude du Canada ou il y a un service de police
spécifique? C'est un officier de la gendarmerie qui semble être spécifique.
OK. C'est très surprenant, par contre, qu'il y ait cette approche-là, parce que moi, j'ai toujours su qu'il y avait quand même un avenant un peu plus intéressant puis qui dirigerait vers les bonnes ressources. Puis le Centre antifraude, mais pourtant, qui est spécialisé là-dedans, normalement, il aurait dû te pousser vers le Centre antifraude pour prendre l'appel pour qu'eux autres aient la perspective nationale, mais OK.
Alors, la première chose qu'il a eu à me dire, c'est qu'il s'est dit « Quelle étrange démarche venant d'un journaliste ?» Parce que certainement, il s'est que contenté de mon LinkedIn, hein, il n'a pas regardé ce qu'il y avait autour. Donc du coup, je lui ai montré les démarches de Zataz, je lui ai expliqué qu'on faisait ça au Québec depuis quelques temps avec le protocole, que ma démarche de cyber-citoyen, c'était avant ça, avant d'être un journaliste. Et en plus, rassurez-vous, dans 3 semaines, je ne suis plus journaliste une fois que j'aurai la chance de pouvoir mettre les pieds au Canada. Mais toujours est-il que mon action de cyber-citoyen, elle existe depuis 25 ans en Europe, elle arrive par chez vous. Non, j'ai strictement eu aucune suite. La seule chose que j'ai eue, c'est oui, j'ai bien reçu le message, je peux pas les traiter parce que c'est pas la bonne zone. Bon, OK,
décevant.
Effectivement, je ne peux juste qu'être consterné également de cette situation parce que cela est très dommage.
Mais bon, je vous cache pas que j'ai voulu faire cette démarche-là. Maintenant, je vais passer par des gens qui sont directement sur le terrain. Nicolas, Steve et Richer. Je sais que vous aurez les contacts que vous pourrez me trouver ou même directement les choses. Mais je me suis dit, je me mettais dans la tête vraiment de l'internaute. Vous savez, l'internaute qui a trouvé un problème, qui en a entendu parler, il a vu. Et il se dit, bon, moi, je veux aider. À qui je le donne? j'ai fait cette première démarche-là. Après, je peux avoir d'autres démarches encore plus professionnelles, mais je me mets toujours dans la tête de cet internaute qui veut aider celui qui n'est pas vous et moi, celui qui n'a pas obligatoirement les connaissances, qui n'a pas la méthode de trouver. Eh bien, il a cet énorme frein, et je vous parle même pas des sites où on ne trouve même pas la possibilité de contacter soit un CERT, donc soit l'équipe sécurité, ou tout juste avoir un mail contact efficace qui permet de dire « j'ai trouvé ça, voilà l'info, bonne correction ».
Ça laisse perplexe. Mettons. Ouais. Voyons, peut-être que quand tu seras un gentil Canadien, peut-être qu'ils vont accepter de t'écouter de bonne foi à ce moment-là.
Oui, enfin, j'avoue aussi que je peux comprendre une autorité policière qui se dit « on le connaît pas, on en a entendu parler, on s'est contenté de lire deux, trois choses qu'on a vues à droite à gauche, je peux comprendre que ça peut les inquiéter aussi. » Bon, après, je suis pas né hier, je suis pas un débutant dans le sujet, il y aurait peut-être eu plus de démarches. Après, je comprends aussi qu'il y a peut-être des hiérarchies qui n'ont pas eu l'information, qui n'ont pas eu encore le temps de la lire, etc. Moi, tout ce que j'espère, c'est que, bon, certaines infos que j'ai envoyées, il était trop tard, hein, elles avaient été trouvées dans le black market, et donc il est clair que je pense à cet office de tourisme, par exemple, ou encore, oh bah c'est simple, hein, un service de police du côté de Toronto qui se diffusait dans le black market avec une injection SQL. Là, pour moi, je pense que malheureusement, il est trop tard. Par contre, les deux cliniques qui n'ont toujours pas leur VPN Fortinet corrigé, ou donc ça veut dire qu'on a toujours accès au login, au mot de passe, ça, c'est une information qui m'a été remontée donc pour que je puisse servir de passe-plat pour que les gens corrigent très, très vite. Le problème, c'est que là, on se retrouve avec... Eh bien, c'est simple, hein. Une petite ficelle qui, à tout moment, va casser parce que si des malveillants tombent dessus, ça va être le massacre, hein. Il y a le problème, quoi. Nous, on est là pour agir et pour aider.
On sait de toute façon jamais quand ils vont intervenir, ces malveillants-là, parce que, justement, on le voit avec la dernière vague de Ryuk, où ils peuvent attendre plusieurs semaines, des fois plusieurs mois, avec du code dormant qui n'est pas répertorié par aucun engin et qui n'est pas visible. Puis, pouf, il explose, puis oups, on pleure de tous nos yeux. Donc, passons à la nouvelle suivante. Damien, site de crypto-monnaie spécialisé PD.
Ouais. Oui, alors en fait, ouais, c'est parce que, on va vous l'avouer, hein, à Nicolas, on fait d'abord une espèce de petit sommaire de ce qu'on va proposer. Et j'ai une fâcheuse tendance à écrire avec des initiales. Et puis quand il lit ça, je l'imagine déjà en train de m'étrangler en disant « mais je comprends pas ce que t'as écrit ». Alors en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est le portail dédié aux crypto-monnaies Poloniex qui a annoncé il y a quelques jours qu'il venait de faire rentrer dans son capital de grands financiers de manière à pouvoir évoluer. Et comme par hasard, dans plusieurs black markets, alors quand je dis plusieurs, c'est, je mens, hein, parce que c'est exactement dans trois, où ont été diffusées une information et une autre où ils ont carrément diffusé les 900 000 potentiels clients de ce portail dédié aux crypto-monnaies. Alors, je vous cache pas que moi, j'ai un petit peu enquêté. J'ai récupéré l'information. Je suis allé extraire une centaine de .fr, donc de français, et je leur ai écrit. J'ai écrit à ces gens leur disant, ben voilà, votre mail, je l'ai trouvé chez des pirates qui sont en train de diffuser une base de données de ce qui semble être une boutique dans laquelle vous êtes client. Et je leur ai dit, ben voilà, vous pouvez me confirmer. Dans cette centaine de mails, 60% des mails me sont revenus avec une erreur. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, cette base de données est soit fausse, soit vieille. Mais ce qui est plus ennuyeux, je trouve, c'est qu'ils ont diffusé ça au moment où cette annonce marketing, cette annonce de business, pourrait et risque de nuire à cette entreprise. D'autant plus que l'entreprise n'a pas du tout communiqué sur le sujet, donc elle n'est pas au courant. Je ne sais pas, moi, si le reste des adresses proposées informationnelles dans ce document sont vraies, si les mots de passe sont vrais. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est par exemple les avertir et leur dire, ben voilà, il y a ça de diffusé en ce moment, alertez vos clients et puis surtout, vous voyez si c'est cohérent et s'il faut changer l'intégralité des mots de passe. Sauf que, j'ai galéré pour trouver des liens, pour trouver un mail, pour pouvoir trouver une personne. Je suis tombé sur des liens qui me disent « bah voilà, il y a du phishing, voilà, il y a un problème ». Je n'ai toujours pas trouvé un mail efficace et rapide pour pouvoir contacter un gars chez eux. Une personne, un DPO comme on l'appelle, le fameux officier des données personnelles. Rien, que dalle. Alors du coup, bah, j'ai envoyé un tweet parce qu'ils ont un compte Twitter. Tous ces gens ont des comptes Twitter avec des community managers qui vous vendraient la lune parce que c'est les plus beaux du monde. Bah, alors pour avoir une réponse, vous asseyez sur une licorne. Hein. Il y a personne qui vous parle. Juste pour info, il y a plus de 85 000 Canadiens dans cette base de données. Hein. J'ai plus de 4 000 Belges, j'ai plus de 500 Luxembourgeois et j'ai plus de 12 000 Français. Et je vous dis ça parce que j'ai vu simplement chercher des .fr, .ca, .be et .lu. Alors, je vais même pas compter le nombre de Gmail et compagnie. Hein. Ils n'ont toujours pas répondu. Si c'est vrai, si c'est faux. Et dans tous les cas, pour eux, ils sont dans la merde, pardon du terme. Mais cette information-là, elle était pour le moment que dans trois black markets. Ça a été diffusé là, il y a quelques heures et quelques jours pour le tout premier. Mais ça va remonter aux oreilles obligatoirement. Quelqu'un a fait ça, c'est pas pour rien. Qu'ils agissent, qu'ils aient au moins un moyen aussi que les internautes les contactent. Parce que une fois que l'information se diffuse, une fois que l'information est connue, il va falloir rassurer ses clients. Steve le disait tout à l'heure, mais les clients qui vont être inquiets, c'est pas par un joli communiqué de presse qui va vous dire « Ne vous inquiétez pas, tout ça est faux. Ne vous inquiétez pas, tout ça est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, on vous protège. » Ouais, en attendant, il y a des gens qui ont mis la main sur des informations, ils les diffusent. Comme je vous disais, les licornes, c'est que dans les films. Le problème, c'est que là, pour le moment, pour moi, il y a 938 650 personnes qui semblent être assises sur la licorne.
Beaucoup de monde, c'est une seule et unique licorne.
Ah, mais il y a certaines licornes qui adorent ça à première vue.
Mais supposons. Passons à une nouvelle autre qui nous ramène un peu dans des contextes où les technologies avancent peut-être pas toujours à une vitesse égale. Des disques nucléaires ou comment les armes nucléaires utilisent encore des floppy disks pour leur fonctionnement.
Oui, donc dans le fond, le système, comment ils appellent ça eux autres, c'est la SACCS ou la US Strategic Automated Command and Control System. Eux, c'est eux autres qui sont en charge de pouvoir relayer les messages et de garder une suite pour voir les capacités nucléaires, dont les avions, les sous-marins, les dépôts, les ICBM aussi. Donc, tout ça, tout ce qui est nucléaire, eux autres, ils tiennent ça en compte. Le système avait été créé en 1968, puis il a roulé pour au moins 50 ans sur un IBM série 1, donc un mainframe, donc c'est pas jeune. Et il utilisait, attention, des floppies de 8 pouces. Donc, c'est quelque chose. Et donc, ils ont changé ça dernièrement pour des disques à haute sécurité. Et donc, des disques SSD à haute sécurité. Donc, ils ont changé ça. Si ça rentre sur une floppy, on s'entend, ça ne doit pas prendre grand place, mais c'est le principe que il avait pas changé ça vraiment et ça faisait longtemps que c'était encore comme ça. Même en 2014, il avait été mentionné comme quoi qu'il n'y avait pas de sécurité d'encryption, il n'y avait pas de validation multifacteur. Il y avait plusieurs choses qui n'étaient pas en place et donc c'était vraiment pas sécuritaire. Mais eux autres, ils se fiaient surtout sur le fait que, donc justement, le lieutenant-colonel qui parle dans l'article, il mentionnait comme quoi que c'est un système, il est barré et il est pas connectable directement sur Internet. Donc, à quelque part, il laissait sous-entendre c'est sécuritaire. Et aussi, ce que j'ai eu peur là-dedans, c'est il disait comme quoi, vu l'âge du système, ça fait sa sécurité. Donc, finalement, encore de l'obscurité, la sécurité par obscurité, ce qui est complètement ridicule. Et c'est pas parce que quelqu'un connaît pas comment qu'un système fonctionne que c'est impossible de pouvoir l'attaquer. Donc, c'est... Bon, les bras m'ont tombé. Il a fallu que je les ramasse. C'était correct après, mais bon.
De décrire très bien, c'est quoi la culture militaire d'un environnement complètement fermé, isolé. Moi, je suis pas surpris que ça soit décrit comme ça. Et oui, le système étant pas connecté, vraiment, c'est un système très fermé et très isolé du reste de n'importe quel autre réseau. Donc, vraiment pas branché à travers des troncs communs de quoi que ce soit. Fait que oui, en quelque part, ils se sont vus sécuritaires à l'utilisation de leur système pendant toutes ces années-là de cette manière. Non, il n'y a pas besoin d'authentification de facteurs parce que dans la procédure avec la laquelle ils reçoivent l'authentification pour être capables donc d'engager les armes et de procéder à un lancement. La procédure, elle est telle que est prouvée pour dire que c'est authentique lorsqu'elle découle. Puis avec le floppy, bien, c'est un peu une clé pour être capable de valider cette communication-là. Bien, après ça, le système qui soit upgradé, parfait, mais la technologie comme on la connaît n'est pas si parfaite que ça pour remplacer un système qui a été éprouvé. Puis qu'à ce moment-là, fallait qu'il change pour quelque chose de plus moderne. Puis moi aussi, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il faut que tu travailles avec des pièces que tu as, mais quand c'est rendu, il faut aller sur eBay quasiment pour te chercher des pièces de rechange, là, comme les vieux PBX. Faut que tu penses à changer à un moment donné. Là. Ça, c'est un fait.
Excellent. des fois, hein? OK. Fascinant. Finissons avec quatre bonnes nouvelles. de Steve, est-ce qu'on a quand même des bonnes nouvelles malgré tout dans tout ça, là?
Oui, on a des bonnes nouvelles cette semaine. Et en rafale, laissez-moi vous raconter ces nouvelles-là. Là, qu'est-ce que t'as fait, Nicolas? Là, je trouve plus mes textes, tabarouette.
Je vais remonter dans une section qui s'appelle « Bonnes nouvelles ».
Ah ouais, attends un peu, là, j'essaie de me... Oui, ben exactement. Donc, la meilleure nouvelle, justement, cette semaine, c'est le démantèlement d'un réseau pédophile international. Et quand je lis ça, moi, ça me fait toujours un petit chaud au cœur, parce que l'Internet n'était pas prévu pour faire ce genre de cochonnerie-là. Autrement dit, ils ont été sur c'est un effort international qui ont été capables donc d'aller chercher une centaine de suspects et de ça dans plusieurs pays. Là-dessus, ils ont été capables donc de démanteler un site qui s'appelait Welcome to Video sur le Darknet. Et que, à toute fin pratique, c'est un Sud-Coréen de 23 ans qui gérait ça. Et c'était la collection de vidéos pornographie infantile le plus gros sur le Darknet. Donc, ça a pris si mon souvenir est bon, c'est quasiment 2 ans. Alors que le site opérait depuis juin 2015. Ça donnait donc évidemment de faire cet échange-là un peu partout. Là-dessus, les policiers ont saisi pour une valeur de 5300 bitcoins, une valeur à peu près de 730 000 $. Et après ça, on peut amener jusqu'à 337 accusations pour des utilisateurs qui étaient sur le site à ce moment-là. Fait que ce qui fait en sorte que c'est fantastique. Écoute, ils ont été dans tous les coins du pays, je veux dire de l'Australie au Brésil, le Canada est impliqué, le Costa, la République tchèque, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Pologne, l'Arabie saoudite. Ça, j'ai été surpris de voir ce pays-là dans la liste. Mais pas impossible, les Émirats arabes unis, la Suède, l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la Corée du Sud. Donc, voyez comme des fois, les camps qui unissent leurs efforts, justement, ils sont en mesure, les services policiers, d'arriver et d'aller chercher ce qui va pas bien. Et une des façons qu'ils ont été capables de faire ce retraçage-là, c'est de m'amener à un des utilisateurs qui a mal sécurisé son lien et son VPN, il a laissé transpirer sur le Sud-Coréen, ça, où ce qu'il était, par quelle porte d'entrée il entrait sur le Darknet. Donc, c'est l'IRS aux États-Unis, à l'Internal Revenue Service, qui a été capable, à ce moment-là, à partir de ce point-là, de le traquer. Traquer, c'est la monnaie virtuelle qu'il utilisait, et après ça, aller chercher justement le site documenté qui allait se connecter là-bas pour procéder à toutes ces arrestations. Donc, chapeau aux services policiers, merci de continuer votre gros travail. J'enchaîne d'abord avec la suite. Donc, une autre belle nouvelle qui est un outil de décryption qui est maintenant disponible pour les plus virulents des sites, les plus virulents des ransomware. On parlait de ça tout à l'heure, mais les ransomware, c'est bien beau, mais il faut qu'ils soient capables de s'en départir rapidement. Et de plus en plus, les clés de décryption, des logiciels qui sont conçus, c'est-à-dire pour être capables d'attaquer justement les processus de décryption. Et là, présentement, on a Emisoft et Michael Gillespie qui ont été capables de sortir un logiciel étant capable d'attaquer le Stop Ransomware et ses 148 variantes pour donc aller sur un système qui est crypté et capable de le débarrer sans payer rançon, encore une fois. Fait que ça aussi, ça avance la science de dire qu'il y a un ransomware qui sort, mais on va avoir un logiciel rapidement qui va être capable de le contrer. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Je trouve que ça vaut la peine de laisser savoir qu'il y a de l'espoir avec ça. Dans l'autre bonne nouvelle que j'avais mis en évidence, c'est la coopération entre les Russes et les Américains dans les échanges d'informations en termes de cybersécurité. Parce qu'il y a eu quand même des grosses attaques dans les dernières années sur le système bancaire russe, dont 5 grosses banques, qui, si mon souvenir est bon, c'est 4 ans ou 3 ans, qui ont été mis à terre par une attaque de données de service de 1.4. Terabits par seconde, c'est encore là, la mémoire me sert. Et de cette manière-là, je veux dire, les Russes, autant que les autres, je veux dire, les Russes, c'est pas juste des criminels, en passant, il y a des gens qui, comme vous et moi, travaillent avec l'Internet et veulent, à ce moment-là, avoir un accès agréable avec le reste du monde. Donc, le FSB a décidé de se lier avec les États-Unis pour être capable d'échanger de façon cordiale de l'information, évidemment, sommaire, sur qu'est-ce qui se passe sur les Internets. Ça va aider, justement, à amener tout le monde à en profiter grandement. C'est que on tous souhaite faire la même chose avec le Canada quand on fait nos échanges avec nos alliés. Là-dessus, où est-ce que tu m'as mis mes affaires, Nicolas?
Et il reste Post-Canada.
Ben oui, Post-Canada. Hey, dans un élan de générosité de prévention, Post-Canada nous a reseté les mots de passe le 16 octobre dernier. Quoique, il n'y a pas eu de brèche au système. Non, c'est juste une prévention que Post-Canada a fait de nous resetter les mots de passe pour qu'un matin, on essaie de se connecter, puis oups, plus rien qui fonctionne, il faut faire le processus de récupération de mots de passe. Il y a sûrement une raison là, alentour de ça, sous-jacente, là, qui a motivé ce reset de mot de passe-là, j'en conviens. Mais c'est rare. C'est rare qu'une compagnie va faire une prévention de la sorte et surtout très, très nette de couper ça net sec pour être à mesure de procéder.
Oui, ils voulaient probablement bêta-tester leur setup de reset de mot de passe.
Et pourtant, il était là. Je l'ai déjà utilisé. Mais moi, je pense qu'il y a une autre raison qui est arrivée, qu'il fallait qu'ils reset. Là. Ils n'ont pas dit quoi, là, mais il doit y avoir une autre raison sous-jacente.
Mais disons qu'au moment où on est dans un univers où il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de rançongiciels qui attaquent, ce genre de choses-là, l'absence de communication est plus problématique et laisse plus l'idée à ce qu'il puisse passer tout et n'importe quoi que s'il y avait une communication transparente et adéquate.
Oui, ça a bien allé.
Oui. Donc, ça termine l'épisode de cette semaine. Encore un épisode bien chargé. Steve n'est pas d'accord, mais Steve doit quitter à 16h et on a fité Floche dans le temps.
Eh oui.
On a réussi.
On va les garder pour la prochaine fois parce que c'est des nouvelles dans le temps qu'on va pouvoir en jaser parce que c'est quand même très important qu'est-ce que j'avais à vous apporter, mais on les garde pour la prochaine émission.
On a encore bien de place. De toute façon, ils sont dans le show, les informations dans le show notes, puisque quand Steve est énormément prolifique, comme il est d'habitude, finalement, on rajoute les liens dans le show notes. Fait que si vous voulez aller voir, allez voir notre show notes, toutes les informations sont là. Et de toute façon, on va vous en rejaser dans les prochaines semaines, de toute façon. Prochain rendez-vous, Wackfest, si vous voulez nous voir participer, enregistrer avec nous autres, délirer avec nous autres, vous êtes les super bienvenus. Messieurs,
bonne semaine, à la prochaine, et oui, on se revoit tous au Hackfest.
Et on va se retrouver autour d'une bonne poutine, mais qui fait déjà baver mes petites babines. Ciao, ciao!
Salut tout le monde!
It's quiet.